Pour ceux qui peut-être ne connaissent pas Marc Ray, eh bien je vous le présente, ou plutôt il va peut-être se présenter aussi lui-même. Il a été pasteur de cette église pendant...
Oh, je ne compte plus.
Tu ne comptes plus.
40 ans. Non, 34 ans.
34 ans. Vous vous rendez compte, il a conduit donc ce peuple, ce troupeau là, à Villefranche, pendant 34 ans. Et donc c'est un grand plaisir, un grand honneur aussi qu'il nous fait de venir nous offrir une prédication.
Eh bien, bonjour, je suis très heureux en tout cas d'être avec vous ce matin, de retrouver ce que je connais et également de faire la connaissance de ceux que je vois pour la première ou peut-être, je ne sais pas, combien de fois on s'est déjà vu. Mais comme ça fait 3 ans et demi que je ne suis pas venu ici, je suis d'autant plus heureux de vous retrouver. Alors, il n'y avait pas assez apparemment de pain et de vin tout à l'heure. C'est bon signe, parce que d'habitude, il en reste toujours. C'est-à-dire que l'espérance de celui qui prépare la scène n'a pas abouti, puisque le nombre n'est pas aussi grand que ce qu'il avait prévu. Or, ce matin, vous êtes plus nombreux, ou nous sommes plus nombreux que ce qui avait été prévu. C'est formidable, c'est très encourageant pour la suite en tout cas. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous transmettre aussi les salutations de Martine, mon épouse, et en particulier à ceux qu'elle connaît. Voilà, comme ça, quand elle me dira à la maison, tu les as bien salués de ma part. Non, j'allais dire, je n'aurais pas besoin de mentir, c'est pas vrai. Voilà. Eh bien, je vous invite ce matin à une méditation sur l'ascension, parce que dans 4 jours, c'est l'ascension. Et j'ai un peu l'impression que c'est une fête chrétienne quelque peu oubliée. Noël, tout le monde en parle, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Pâques, c'est également une fête juive, donc très ancienne. Mais l'ascension, on est content d'avoir un jour de congé férié, éventuellement un pont aussi, en plus, puisque c'est toujours le jeudi de l'ascension. Mais est-ce que on va louer Dieu, remercier Dieu, le glorifier pour l'ascension, comme on fait par exemple à Pâques quand on pense particulièrement, alors qu'on y pense tous les dimanches ou tous les jours, à la résurrection de Jésus? Alors cette fête de l'ascension marque l'élévation ou l'ascension de Jésus-Christ au ciel. Et d'après le livre des Actes des Apôtres, l'ascension, a eu lieu le 40e jour après la résurrection de Jésus. La fête de Pâques est en mobile parce qu'elle est toujours le dimanche qui suit la première pleine lune du printemps. Celle de l'ascension l'est aussi. Et cet événement met un terme à la vie terrestre de Jésus. Je pense que ce n'est pas sa mort ou sa résurrection qui met un terme à sa vie terrestre, mais son ascension, car il a rencontré ses disciples, il les a enseignés, il a même mangé avec eux après la résurrection pendant ces 40 jours. Et cela nous est relaté dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Luc, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er notamment. Et ce matin, nous nous intéresserons plus particulièrement à 2 aspects de cet enlèvement de Jésus. Alors le mot « enlèvement » qui est utilisé dans différentes traductions, il est question aussi de l'enlèvement de l'Église. Alors j'utilise la Nouvelle Bible Second, dans laquelle je ferai quelques lectures, mais je vous inviterai aussi à lire dans votre propre Bible. Mais cet enlèvement est assez intéressant en français en tout cas, parce qu'il fait penser aux enlèvements d'enfants, par exemple, aux alertes enlèvement. Comme si il y avait comme une force supérieure qui entraînait les personnes dans un autre monde. Alors nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 16 et au verset 19 d'abord. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Alors ce sont ces deux aspects que j'aimerais méditer avec vous ce matin, l'enlèvement au ciel et puis la cession de Jésus, il s'est assis à la droite de Dieu. Et puis maintenant, lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 51 et 52, parce que Luc ajoute un petit détail qui n'est pas, à mes yeux, sans importance. Luc 24, 51, 52. Pendant qu'il les bénissait, ses disciples, il se sépara d'eux. Voilà ce qui est un peu nouveau chez Luc. Il se sépara d'eux. Ça va peut-être de soi, mais quand même, je pense que c'est important. Et il fut enlevé au ciel. Quant à eux, après s'être prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Alors, l'enlèvement au ciel. Les deux verbes utilisés par Luc, se sépara et fut enlevé, se trouvent dans la traduction en grec de l'Ancien Testament qu'on appelle la Septante, au chapitre 2, au verset 11, à propos de l'enlèvement du prophète Élie. Je lis, chapitre 2, verset 11, donc dans la traduction de ma Bible, « Comme il, c'est-à-dire Élie et Élisée, continuaient à marcher en parlant, un char de feu et de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta ou s'éleva au ciel dans une tempête. » L'image de l'enlèvement d'Élie est impressionnante, voire insoutenable. Notre corps ne résiste pas devant un tel embrasement, un char de feu, des chevaux de feu, sauf miracle de Dieu, puissance de Dieu, comme avec les trois amis de Daniel qui sont sortis indemnes d'une fournaise chauffée à blanc. Mais avec l'ascension de Jésus, alors que je pense que Luc, en utilisant les mêmes verbes, fait un lien avec l'enlèvement d'Élie, avec l'enlèvement de Jésus, l'ascension de Jésus, rien de tout cela. L'événement se passe dans le plus grand calme, dans la discrétion, comme s'il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais je crois que Jésus a tenu à marquer son départ de cette terre d'un geste visible et plus que visible. Et je crois que s'il l'a fait, c'est pour montrer que son corps transfiguré appartenait déjà au monde à venir, à celui qui se mettra en place avec l'enlèvement des morts et des vivants lorsque Jésus descendra les chercher. Alors une poignée d'apôtres, peut-être plus, nous ne savons pas bien, assiste à cet enlèvement ou à cet événement pourtant prodigieux. Mais que veut dire l'expression « monter » ou « être enlevé au ciel » ? Au ciel, de quel ciel s'agit-il ? Que veut dire par là « être enlevé au ciel » ? Dès la première phrase de la Bible, Genèse chapitre 1, verset 1, on apprend que le ciel a été créé par Dieu et qu'il est comme une paire avec la terre, étant indissociable de la terre. Je lis, au commencement, Dieu créa les cieux, le mot hébreu est au pluriel, et la terre. Comme aussi dans la parole de Jésus, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mais le ciel, dans la Bible, c'est aussi la résidence particulière de Dieu, qui se trouve donc pourrait dire au sein de sa création, puisque le ciel a été créé par Dieu. Je lis 2 Chroniques 30, verset 27. Les prêtres lévites bénirent le peuple, ils furent entendus. Leur prière parvint jusqu'à son séjour sacré, virgule, au ciel. Séjour sacré, c'est traduit aussi dans d'autres Bibles par sa sainte demeure. Et puis l'Ecclésiaste nous dit, alors ça c'est pour moi particulièrement ce matin, que tes paroles soient peu nombreuses, Dieu est au ciel et toi sur la terre, ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et l'apôtre Paul écrit à Timothée, il a été enlevé, le verbe enlevé, dans la gloire, la gloire. Ce seul mot fait référence à Dieu. La gloire, c'est la gloire de Dieu dans la Bible. C'est ce qui accompagne Dieu quand il se déplace, quand il se meut. La gloire, c'est la présence glorieuse de Dieu. Et c'est bien ce que dit Jésus à Marie-Madeleine le matin de la résurrection. Alors dans ma Bible, c'est traduit comme ceci, « Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » En montant au ciel, Jésus a rejoint son Père. Et c'est ce qu'il avait annoncé dans Jean chapitre 16, par exemple, il dit « Je vais vers le Père ». Mais cette parole n'a pas été comprise par les apôtres. Alors j'aimerais qu'on lise maintenant dans 2 Corinthiens, chapitre 12, un texte pas toujours facile à comprendre, mais on verra pourquoi. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 2 à 4. L'apôtre Paul écrit « Je connais un homme dans le Christ ». Et la plupart des commentateurs pensent qu'il s'agit de Paul lui-même. Mais pour ne pas se vanter, il parle d'un homme à la troisième personne. « Je connais un homme dans le Christ, voici 14 ans. Était-ce dans son corps? Je ne sais pas. Était-ce hors de son corps? Je ne sais pas, Dieu le sait. » Un tel homme fut enlevé jusqu'au troisième ciel. Et je sais qu'un tel homme, était-ce dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas, Dieu le sait, fut enlevé au paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'énoncer. Des paroles ineffables, c'est-à-dire inexprimable, impossible à exprimer, qu'il n'est pas permis à un homme d'énoncer. Pourquoi ? Parce que notre nature, notre condition humaine ne nous permet pas, ne nous donne pas la possibilité d'appréhender un tel monde. Mais il nous parle du troisième ciel. Qu'est-ce que le troisième ciel ? Alors le premier ciel, c'est le ciel atmosphérique, le ciel des oiseaux, et pour nous, le ciel des avions qui volent dans notre atmosphère. Le deuxième ciel, c'est le ciel des étoiles, on pourrait dire sidéral ou astronomique. Là où se situent les milliards d'étoiles avec leurs galaxies. Les astrophysiciens, par exemple Hubert Reeve, pensent que cet espace-là est infini. Alors, je sais pas, on ne peut pas réaliser ce que c'est qu'un espace infini, mais on ne peut pas réaliser non plus qu'il ne soit pas infini. Et le troisième ciel, donc dans la pensée hébraïque de l'apôtre Paul. C'est le ciel où se situe la demeure de Dieu et des anges. Ce ciel-là ne se mesure pas en années-lumière, parce qu'il appartient au monde invisible, ou encore au monde spirituel, puisque Dieu est esprit. Alors Jésus n'a pas traversé le ciel à la vitesse de la lumière. Vous savez que la lumière voyage à la vitesse de 300 000 km seconde. Elle met une seconde pour arriver de la Lune, quand la Lune réfléchit la lumière du Soleil. Elle met 8 minutes pour arriver du Soleil. Mais si, par un ciel étoilé d'été, vous pouvez apercevoir la galaxie d'Andromède, alors la lumière qui entre dans votre œil a mis 2 millions d'années pour parvenir jusqu'à vous. C'est-à-dire que ce que vous voyez à ce moment-là, ça s'est passé il y a 2 millions d'années. Et pour voir ce qui se passe maintenant, il faudra que vous attendiez encore 2 millions d'années. Mais ça, c'est le deuxième ciel. Mais le troisième ciel, c'est le monde de Dieu qui, par définition, est immatériel. Il s'y est pourtant rendu avec son corps, comme Élie. Mais c'était un corps glorifié avec des propriétés nouvelles. Alors le mot « ciel », « élévation » indique que Dieu est au-dessus de tout. Ce personnage un peu énigmatique qui a rencontré Abraham, Malchisédek, il est dit qu'il était prêtre du Dieu très haut. Très haut, c'est-à-dire au-dessus de tout. Et l'expression « au-dessus du ciel » que l'on retrouve dans le psaume 57, verset 6, est exprimée aussi dans Éphésiens 4, verset 10, quand Paul dit « il est monté au-dessus de tous les cieux ». Donc, il n'est pas seulement monté au ciel, il est monté au-dessus du ciel. Et ce ciel-là est considéré comme la résidence de Dieu. Mais ce n'est pas à prendre au sens géographique. Alors certes, Dieu est partout. Aucun lieu ne lui est étranger. Mais du haut du ciel, Dieu règne en roi sur sa création, sans exclure qu'il puisse aussi résider ailleurs en même temps, comme au sein du peuple d'Israël à l'époque de Moïse, Exode 25, verset 8, par exemple, ou en Jésus-Christ, quand Jésus-Christ était sur la terre, Jean 1, 14, ou encore, aujourd'hui, en vous, en nous, dans le corps de ses enfants, à travers le monde. Je vous lis 1 Corinthiens 3, 16, c'est facile, hein, les 3, 16 dans la Bible sont assez importants et faciles à repérer. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Timothée 6, 16 nous dit que Dieu habite une lumière inaccessible, inaccessible, qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. Alors ce lieu entre guillemets, qui est la résidence de Dieu, tous ceux qui en ont eu une vision, j'ai vu le ciel ouvert, dit Ézéchiel, j'ai vu une porte ouverte, dit Jean dans l'Apocalypse, qui ont essayé de décrire ce qu'ils ont vu, se sont heurtés à l'incapacité de trouver les mots justes. Ils en ont parlé par approximation ou par comparaison avec souvent un déferlement de feu, d'ouragan, d'éclairs, de tonnerre. Il est arrivé cependant que Dieu se laisse voir, mais sous forme de représentation, comme pour Moïse et la délégation d'Israël, Exode 24, ou dans la vision d'Ésaïe, chapitre 6, où Dieu apparaît sous la forme de quelqu'un qui est sur un trône avec les pans de son vêtement qui remplissent tout le temple. Ézéchiel aussi a vu la gloire du Seigneur sous la forme d'un homme assis sur un trône élevé. Ézéchiel, chapitre 1, verset 1, le ciel s'ouvrit et au verset 26, je lis, « Tout au-dessus de la voûte qui était au-dessus de leur tête, il y avait quelque chose, c'est précis, hein, quelque chose, qui avait l'aspect du lapis lazuli, c'est comme l'émeraude, hein, une pierre précieuse, et qui ressemblait à un trône. Et au-dessus de ce qui ressemblait, hein, c'était pas un trône, ça ressemblait à un trône, hein, ce qui ressemblait à l'aspect d'un être humain. Et la difficulté de décrire parce que ce n'est pas quelque chose qui appartient à notre monde. Alors revenons à l'évangile de Marc, où il est écrit « Il s'assit à la droite de Dieu ». Jésus avait déjà utilisé cette expression « à la droite de Dieu » devant le grand prêtre Caïphe lors de son pseudo-procès. Marc chapitre 14, verset 62, le grand prêtre lui demandait « Est-ce toi qui es le Christ, le Fils du béni ?» Jésus répondit « C'est moi ». Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance, c'est-à-dire de Dieu, et venant avec les nuées du ciel. Alors Jésus utilise ces deux verbes, assis à la droite et venant avec les nuées du ciel, donc de là où il est. Et Jésus s'identifie ainsi au personnage messianique de Daniel chapitre 7. Mais cette affirmation devant le grand prêtre a été considérée comme blasphématoire, et elle a suffi au grand prêtre pour le condamner à mort. Étienne, dans le livre des Actes, voit les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout. Tiens, il a changé de position, il n'est plus assis, il est debout, à la droite de Dieu. Et pour lui aussi, cette parole a suffi pour qu'il soit lapidé. Dans de nombreux textes du Proche-Orient ancien, le roi était souvent représenté assis à la droite de la divinité. Et j'ai remarqué que dans nos tribunaux, aujourd'hui, enfin, pas seulement aujourd'hui, on divise les magistrats en deux catégories. Ceux qui sont assis et ceux qui sont debout. Ceux qui sont assis, on les appelle les magistrats du siège. Et ceux qui sont debout, on les appelle les magistrats du parquet. Le parquet se tient du côté de l'accusation, qui demande aux magistrats du siège d'appliquer la sanction qu'ils requièrent. Et je fais le lien avec Romains chapitre 8, verset 34. Je lis. Qui accusera ce que Dieu a choisi ? Alors, dans les tribunaux, c'est le procureur qui accuse. Le procureur du parquet, debout. Paul continue, « C'est Dieu qui justifie, donc qui déclare juste. » Ça, c'est le président des magistrats du siège qui prononce la condamnation ou la relaxe. « Qui condamnera ?» Donc, encore une fois, c'est le parquet qui requiert la condamnation. Et Paul poursuit, c'est Jésus-Christ qui est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est cela, notre justification devant Dieu, pas nos œuvres, mais le Seigneur qui a payé le prix de notre condamnation. Mais où Jésus siège-t-il ? Alors oui, au ciel. Bon, entre autres, Apocalypse, chapitre 3, verset 21. « Le vainqueur, dit Jésus à l'église de Laodicée, je lui donnerai de s'asseoir avec moi. » Ah, ça c'est intéressant parce que il n'est pas ou il ne sera pas tout seul. « De s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai été vainqueur et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » C'est le trône de la royauté, du gouvernement, de l'autorité. Mais quelle magnifique promesse qui fait de nous des rois et des reines. Alors je résume. Premièrement, le ciel, c'est la résidence particulière de Dieu, mais c'est un lieu spirituel que l'on ne peut pas localiser. C'est d'un autre ordre, d'une autre dimension. Deuxièmement, Jésus règne, non seulement partout, mais, bon, disons, quelque part. mais ce quelque part est de nature spirituelle. Dans sa création en tant que roi de l'univers. Troisièmement, là, dans le temple céleste, je crois que ça c'est quand même assez formidable, il y a grosso modo 2000 ans, dans le ciel invisible de Dieu, invisible pour nous, un être humain s'est assis sur le trône divin. Depuis lors, quand on s'adresse à Dieu, c'est aussi à l'homme Jésus que l'on s'adresse. 1 Timothée 2,5 nous dit « Il y a un seul Dieu, mais aussi un seul médiateur entre Dieu et les humains, Jésus-Christ homme, ou l'humain Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. » Eh bien, c'est cet homme Dieu, cet homme Dieu ou ce Dieu homme, qui dirige du haut du ciel l'histoire de la terre. Tout lui est soumis, ange, autorité, puissance. Même, écrit l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 8, même si nous ne voyons pas encore que tout lui est soumis. Mais Satan est définitivement vaincu, ainsi que les puissances du mal qui l'accompagnent. Et ce Jésus, qui est assis sur le trône de Dieu, ce Jésus homme, puisqu'il est mort, pour nous, en tant comme tous les hommes meurent, ce Jésus va revenir de la même manière qu'il est monté au ciel pour établir son royaume éternel de justice, de paix. Là, dit l'Apocalypse, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Dernière chose, juste avant l'ascension de Jésus, nous dit Luc, ils retournèrent, et ce sont ces derniers mots pour l'évangile de Luc, à Jérusalem avec une grande joie. Une grande joie. Quand vous quittez un être cher, vous avez une grande joie, chic alors. Ouf, il s'en va, merci, c'est formidable. Non, non, nous sommes tristes, bien sûr, et en particulier avec les épreuves de la vie. Mais juste après l'ascension de Jésus, nous dit Luc, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Pourquoi cette grande joie? Non seulement parce que Jésus est présent par le Saint-Esprit dans notre cœur, en nous, au milieu de nous, mais aussi parce que Jésus règne du haut du ciel, il a remporté la victoire, il est notre défenseur auprès du Père. Et il est parti pour nous préparer une place, pour que là où il est, nous y soyons aussi. Nous le rejoindrons, c'est sûr. Et dans cette attente, il ne nous laisse pas seuls, il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen.